Alors, je vous invite à juste prier avant qu'on démarre ensemble. Seigneur, je te remercie pour cette occasion d'être ensemble en tant que femme, de prendre ce temps à part pour toi. Seigneur, je te prie que tu nous interpelles encore. Seigneur, que tu puisses parler à nos cœurs, Seigneur. Que tu puisses faire tomber tous les murs qui nous empêchent d'entendre ce que tu veux nous dire. Seigneur, qu'on puisse prendre tes paroles et qu'on puisse les mettre en pratique. Seigneur, je prie que ce soit toi qui parles au travers de moi cet après-midi. Amen. Amen. Alors, j'ai la tâche difficile. Pardon ? Il faut que je parle plus proche ?
Un petit peu. Peut-être juste l'avancer un petit peu. Voilà.
Voilà. Est-ce que c'est bon, là ?
Là, c'est bon.
Ok, on va y arriver. J'ai la tâche difficile de vous garder réveillée pendant la digestion. Alors, je vous invite à vous lever. On va s'étirer. On va faire un grand sourire. Et c'est bon, on nous attend. Vous êtes assis, vous êtes prêtes, on va y arriver ensemble, je vais essayer de vous garder réveillées. Le thème qu'on m'a donné pour aujourd'hui, c'est tenir bon dans l'Église. Et je vous apprends rien, mais il y a beaucoup de déçus de l'Église. Il y a beaucoup de blessés de l'Église. Et vous en faites peut-être partie aujourd'hui, ou vous en avez fait partie dans le passé. Et en tant que membre d'une équipe de responsables d'Église, j'en accompagne. En tant qu'amie, je pleure avec les copines qui sont blessées de l'Église. Et puis j'en ai fait partie également. Et peut-être et même certainement que j'en fais encore partie dans le futur. Enfin, notre Église a vécu une division. Et mes parents m'ont beaucoup protégée. Donc je ne sais pas exactement les tenants et les aboutissants de cette division. Mais ce que je sais, c'est qu'un jour, quand j'avais 6 ans, ben, j'avais plus mes amis à côté de moi sur les bancs. Quand j'étais plus jeune, ado, j'étais déçue de l'Église parce qu'il n'y avait pas de jeunes de mon âge dans l'Église. Alors je refusais systématiquement d'aller au culte les dimanches matins et mes parents souvent s'étaient mis en dispute parce qu'ils m'avaient de force. Et puis je me suis convertie de tout mon cœur et du coup j'allais plus à l'Église pour mes amis, mais j'allais à l'Église parce que je voulais rencontrer Dieu. Mais Dieu, dans sa grâce, il a ajouté des nouvelles personnes de mon âge à l'Église. Et puis, plus tard, jeune mariée, j'étais déçue de l'Église parce que j'attendais qu'elle me nourrisse plus. Jeune maman, j'étais déçue de l'Église parce que franchement, passer son dimanche matin à la garderie, il y a mieux. Et puis, en tant que responsable d'Église, j'ai été déçue de l'Église parce que bah, quand on passe de l'autre côté et qu'on se donne corps et âme et qu'on entend beaucoup de critiques, et ben, c'est pas facile. Mais je ne sais pas si c'est des choses que je vous raconte là qui font écho en vous, mais peut-être que vous avez plus l'habitude d'entendre ce genre de choses. Je réfléchis à quitter mon église parce qu'il n'y a pas de programme pour les mamans. Je crois que je vais partir parce que je ne me sens pas édifiée. Il n'y a pas assez de communion. Le support qu'on utilise pour le groupe de croissance, il ne me convient pas. Il n'y a pas de programme pour les retraités. La musique est trop forte. La musique n'est pas assez forte. Le pasteur est trop mou. La jupe du pasteur est trop courte. On ne m'a pas écoutée pour le choix de la couleur des murs. Alors c'est bien, ça vous fait sourire, mais ce n'est pas des choses que j'invente. Et je suis sûre que vous l'avez entendu aussi. Et vous savez que la grande partie des divisions dans les églises évangéliques a lieu au moment du choix des chaises. Alors, entendez-moi bien, en disant ça, je ne me moque pas. Et il y a des très bonnes raisons de quitter une église. Si la parole de Dieu, elle n'est pas au centre, s'il y a des fausses doctrines qui circulent, si ça devient sectaire, s'il y a des abus de toutes sortes, bien sûr que c'est une bonne raison de quitter l'église. Et entendez-moi bien également, il y a des déçus et des blessés de l'Église qui le sont pour des bonnes raisons. Il y a des personnes qui ont vécu des choses horribles sous le couvert de l'autorité. Elles ont besoin d'être accompagnées, restaurées. Et entendez-moi bien, j'ai fait partie des gens qui étaient déçus de l'Église parce qu'il n'y avait pas de garçons. grâce au mon âge. Alors il y a plein de grâces, et il n'y a pas de jugement sur nous toutes cet après-midi. Mais heureusement qu'il y avait des personnes qui étaient là avec cette grâce, avec cet amour, et qui m'ont aidé à grandir et à comprendre ce qu'est l'Église selon le plan de Dieu. Et c'est ce que je veux qu'on fasse cet après-midi, parce que pour tenir bon dans l'Église, je crois qu'il faut qu'on se plonge dans ce que Dieu veut pour l'Église. Son intention, ses buts, ses promesses, son amour pour l'Église. Il faut qu'on apprenne à se décentrer de nous et de ce que nous, on attend de l'Église. Et qu'on regarde à ce que lui, il veut. Quelle attitude il veut que j'aie? Pourquoi il veut que j'y aille? Qu'est-ce qui lui fait plaisir à lui? Et c'est comme ça qu'on va tenir bon dans l'Église. Alors pour ça, je vous propose qu'on regarde l'Église dans le cœur de Dieu, dans le plan de Dieu. Et forcément, ah, ça marche. L'Église dans le plan de Dieu. Alors, si tu n'es pas convaincu cet après-midi que l'Église fait partie du plan de Dieu pour toi, alors ce sera très facile de lâcher l'Église quand ça devient un peu difficile ou quand c'est un peu plus confortable dans ton planning. Et avec le Covid, je ne sais pas si c'est pareil pour vous dans vos églises, mais nous, on a vu beaucoup de personnes s'accommoder des cultes en ligne et préférer le confort de ce genre de culte. Je ne suis pas en train de juger quand je dis ça. Honnêtement, pendant le Covid, j'étais très contente de regarder le Zoom en pyjama le dimanche matin. Mais est-ce qu'on est convaincu que l'Église, ce n'est pas une option dans notre vie de chrétien? Est-ce qu'on est convaincu qu'elle fait partie intégrante du plan de salut de Dieu pour l'humanité? Et est-ce que tu sais que quand tu es devenue chrétienne, tu es devenue simultanément membre du peuple de Dieu, membre du corps de Christ, membre de l'Église? La Bible nous révèle que Dieu ne veut pas juste sauver des gens. Il a un projet plus vaste. Il veut se créer un peuple qui lui appartienne. Et merci beaucoup, Roula, pour le verset que tu as partagé, parce que c'est ce que ce verset dit. On le voit d'ailleurs dans l'Ancien Testament. Lorsque Dieu appelle une personne, comme Abraham par exemple, il fait alliance avec elle. Et par cette personne, il se crée un peuple. Dans Genèse, au chapitre 1, il est dit: l'Éternel dit à Abraham: quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Lorsque les Israélites étaient en esclavage en Israël, Dieu les libère de leur esclavage et il fait alliance avec eux, c'est-à-dire qu'il fait d'eux le peuple qui lui appartient en propre parmi toutes les autres nations. Et il leur demande de lui être entièrement consacré. Dans Exode, au chapitre 19, il est écrit: vous avez vu, c'est Dieu qui parle à Moïse, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et la façon dont je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez personnellement parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Par contre, quand on lit l'histoire d'Israël, vous êtes d'accord avec moi, on voit que le peuple de Dieu n'a pas été à la hauteur de sa vocation. Et dans le Nouveau Testament, on constate que Dieu continue son plan de création d'un peuple mis à part. Et d'ailleurs, c'est par la mort de Jésus et par l'effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte qu'il va réaliser ce plan. Et on sait toutes que Jésus, il est mort pour le salut des êtres humains. Mais est-ce qu'on réalise vraiment que Jésus, il est aussi mort pour nous réunir en un seul corps, pour créer l'Église? Et c'est pas que moi qui le dis, c'est la Bible, heureusement. Et on va le voir ensemble dans plusieurs versets. Jean 12, verset 52. Il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Tite 2. Jésus s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres. Jésus, il a donné sa vie pour le salut des hommes et pour créer ce peuple qui est l'Église. On voit donc l'importance de l'Église dans le plan de Dieu et son amour immense pour l'Église. D'ailleurs, Paul dira au responsable de l'Église d'Éphèse, Faites donc bien attention à vous-même et à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. Prenez soin de l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Et dans Éphésiens, Paul il invite les maris à aimer les femmes comme Christ a aimé l'Église, jusqu'à donner sa vie pour elles. Donc on voit, à travers tous ces exemples, que Jésus meurt pour que l'Église puisse être constituée. Et en ce sens, l'Église fait clairement partie de l'Évangile. Alors vous voyez le plan de Dieu se révéler dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, se faire un peuple, mis à part pour refléter qui il est, et pour le révéler aux hommes, pour qu'ils proclament ses louanges. Et le plan de Dieu pour l'Église, il est tellement grand que Dieu a élevé Jésus dans une position très haute pour le bien de l'Église. Il a tout placé sous ses pieds et Christ domine sur toute chose et il l'a donné pour chef à l'Église, qui est son corps. Alors, avec tous ces versets et tout ce qu'on a vu à travers le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, j'espère que vous avez compris ou peut-être réalisé à nouveau l'importance de l'Église dans le plan de Dieu pour l'humanité. Maintenant, on va voir ensemble qu'il y a des vraies et des fausses églises. Alors, on a vu que Dieu aime l'Église et qu'elle fait partie de son plan, mais, comme je vous disais, il y a des églises, des vraies églises et des fausses églises, et en tant que chrétien, on n'est pas appelé à tenir bon dans une fausse église. Bon, ça peut paraître basique, et tant mieux si ça l'est, mais on va voir ensemble ce qui permet de distinguer une vraie église d'une fausse église. Alors, le mot français pour église, ça vient du grec ecclésia, et ça signifie rassemblement ou assemblée. Et c'est le mot que les premiers disciples ont choisi pour désigner les communautés qu'ils formaient. En hébreu, c'était kaal le mot, et c'est ça qui a été traduit ecclésia en grec. Et ce mot kaal, il était utilisé quand le peuple d'Israël était convoqué par le Seigneur pour qu'il reçoive et contracte alliance avec lui. On voit l'importance de ce mot. Et dans le Nouveau Testament, on repère deux sens principaux pour le mot église. Il y a le sens local. Une église, c'est la communauté de chrétiens en un lieu, en un temps donné. Donc, par exemple, l'Oasis pour moi, Sonra pour certains, La Bonne Nouvelle pour d'autres. Ce sont des églises au sens local. Et puis, il y a le sens universel, c'est-à-dire la communauté de tous les vrais croyants à travers les âges. Calvin dira qu'une vraie église, c'est partout où on voit que la parole de Dieu est prêchée purement et les sacrements administrés en suivant l'instruction du Christ. Du coup, ça veut dire quoi pour nous? Ça veut dire que si la parole de Dieu, elle n'est pas prêchée, mais qu'il y a seulement de fausses doctrines qui circulent, ou alors des doctrines humaines, eh bien, ce rassemblement ne fait pas partie de l'Église. Par exemple, pour vous donner une idée, l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, donc les mormons, n'est pas en accord avec ce que la Bible dit sur le salut, sur Dieu, sur Jésus et sur son œuvre. On est clairement dans une fausse Église. C'est aussi le cas des témoins de Jéhovah qui enseignent le salut par les œuvres. Là, on peut être sûr qu'on est dans une fausse Église. D'ailleurs, si n'importe quelle Église vous cache le salut par la foi seule, vous êtes convaincu que vous êtes dans une fausse église. Vous n'êtes pas appelé à tenir bon dans ce genre d'église. La deuxième marque d'une vraie église, selon Calvin, c'est quand les sacrements sont administrés selon ce que Jésus a enseigné. Alors les sacrements, ce n'est pas un mot qu'on utilise beaucoup dans nos églises, mais c'est tout simplement la scène et le baptême. Donc, quand dans nos assemblées on pratique la scène et le baptême, on est en train de dire ce qu'on croit par rapport à la doctrine du salut. Et ces activités, quand elles sont pratiquées dans un groupe, on peut appeler ce groupe l'église. Mais par contre, il y a des groupes qui ne les pratiquent pas, ce ne sont pas des mauvais groupes pour autant, mais c'est juste qu'ils ne peuvent pas être appelés église. Donc voilà ce qui permet de distinguer une vraie église d'une fausse église. On va voir ensemble les buts de l'église. Parce que parfois, on ne tient pas bon dans l'Église parce qu'on a projeté notre propre vision de ce qu'une Église doit être sur notre Église locale. Et dès que ça ne colle pas, à notre vision, eh ben on est déçu, voire en colère. Et il peut y avoir une rupture. Et c'est vraiment important de revenir à la parole et de calquer notre vision de l'Église sur la vision de Dieu, sur ce que lui, il a prévu pour son Église. Le premier but de l'Église, c'est l'adoration. Servir Dieu. Quand Paul il écrit à l'église de Colosse, il leur dit « Que la parole de Dieu habite en vous, dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres par des psaumes, par des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur, sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. » Quand il écrit à Éphèse, il leur rappelle qu'ils ont été prédestinés d'avance pour célébrer sa gloire. Et il les invite à se laisser constamment remplir par l'Esprit et à louer le Seigneur de tout leur cœur. Donc le premier but de l'Église, c'est l'adoration. On vit l'Église pour rendre un culte à Dieu, pour le servir lui, pour l'adorer lui. C'est lui qui est digne de recevoir toute la gloire, tout l'honneur, celui dont le nom est au-dessus de tout autre nom. Le deuxième but de l'Église, c'est servir les croyants, c'est la formation. Le but de l'Église, c'est pas seulement d'amener les gens à la foi qui sauve, mais c'est de faire paraître devant Dieu tout chrétien parvenu à l'état d'adulte dans son union avec Jésus. Donc l'Église, elle a pour vocation d'enseigner, de nourrir, d'éduquer à la vie chrétienne, de faire grandir, de reprendre, d'encourager, d'exhorter. En fait, il s'agit de se mettre au service des croyants pour leur édification et leur croissance spirituelle. Et puis le troisième but de l'Église, c'est servir le monde. Et ça, ça passe par l'évangélisation et la miséricorde. Jésus, il a chargé ses disciples de faire de toutes les nations des disciples. Et ce travail d'évangélisation, c'est la responsabilité principale de l'Église vis-à-vis du monde. Ça doit être accompagné d'œuvres de miséricorde, de soucis des pauvres et des nécessiteux. Le fait de connaître les objectifs de l'Église, ça nous aide à tenir bon dans l'Église. Parce qu'on est appelé à tenir bon pour ces trois buts-là. Et les trois sont importants. Alors c'est sûr, une Église forte, elle va être forte dans ces trois domaines. Mais nous, en tant qu'individus, on n'est pas forcément appelé à être fort dans ces trois domaines. On a tous des dons et des appels différents. Mais justement, rentrer dans notre appel, c'est ce qui va permettre à notre Église de rentrer dans ses buts. Une des raisons pour laquelle on ne tient pas bon dans l'Église, c'est qu'on vit l'Église en mode selfie. Vous savez tous ce que c'est un selfie, quand on prend le téléphone et qu'on se prend comme ça. En fait, on va au culte pour se faire du bien, pour se ressourcer, pour trouver une réponse à nos besoins de la part des responsables et des frères et sœurs. Et le problème, c'est qu'on risque de devenir frustré, parce que les responsables, les frères et sœurs, ne peuvent pas être les garants de la satisfaction de nos besoins. Et quand on vit le culte pour ce qui peut nous amener à nous, alors il est fort probable qu'on quitte l'église, le lieu de culte le dimanche matin midi, en étant hyper frustré. Parce que la louange, le message, les prières, la conversation avec Gertrude, eh ben ça n'a pas apporté satisfaction. Et certes, la véritable adoration, en esprit, en vérité, ça produit un effet collatéral de joie, de paix et de bien-être. Et tant mieux. Parce qu'on est en train de faire ce pour quoi on a été appelé. On rentre dans notre vocation en adorant Dieu. Mais par contre, quand on le fait, on regarde à Dieu et on se décentre de lui. Donc on se sent bien. Mais se sentir bien, c'est pas le but de l'Église. Le problème, c'est que notre monde, il nous apprend à nous centrer sur nous-mêmes. Et malheureusement, ça atteint l'Église comme un poison. Et le problème, c'est que vivre l'Église en mode selfie, ça va à l'encontre de ce que Dieu veut et de ce que Jésus enseigne. Et ça crée des frustrés et des déçus de l'Église. Je vous lis un témoignage que j'ai lu dans le livre de Francis Chan qui s'appelle « Lettre à l'Église ». Et je vais me mettre ici parce que je n'ai pas aimé. Il y a quelques années, mon ami venu d'Inde m'a conduit à une conférence à Dallas. Lorsqu'il a entendu la musique et qu'il a vu tous les éclairages, il s'est exclamé « Vous les Américains, vous êtes quand même drôles. S'il n'y a pas un orateur réputé ou un bon groupe musical, vous ne vous déplacez pas. En Inde, la prière suffit à enthousiasmer les gens. Il m'a raconté à quel point dans son pays, les croyants aimaient commémorer la scène et comment ils affluent aux simples réunions de prière. J'imagine Dieu qui se penche sur la terre pour nous regarder. Il voit d'un côté ceux qui sont impatients de se retrouver pour prier et de l'autre ceux qui ne font pas l'effort de se présenter, ceux qui ne font l'effort de se présenter que si on leur promet un orateur de talent et une certaine atmosphère. C'est un peu gênant. David Platt a écrit « Je suis également frappée par notre dépendance du bon orateur et des bons musiciens pour attirer le maximum de personnes à un culte. Et si c'était l'Église, le peuple de Dieu réuni dans un endroit qui était elle-même la force attractive, quel que soit le nom de l'orateur et la qualité de la musique ce jour-là, c'est pourtant ce qui suffit à nos frères et sœurs autour du globe. » La première église a été bâtie sur ce qui plaisait le plus à Dieu. Et les premiers chrétiens, ils attiraient parce qu'ils tenaient bon sur ce qui était juste. Acte 2. Ceux qui acceptèrent et furent baptisés ce jour-là, ceux qui acceptèrent sa parole et furent donc baptisés, et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculés par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Rien dans ce récit ne laisse entendre que les premiers chrétiens aient usé de stratégies complexes pour attirer les gens. Après le retour de Jésus, auprès de son Père, bien sûr, ils se rassemblaient et qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils persévéraient dans un commun accord dans la prière. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans la communion fraternelle. Et ils persévéraient dans la fraction du pain. Et c'est comme ça que l'Église est née. Et cette approche, elle est simple. Et peut-être qu'elle nous paraît même simpliste. Est-ce qu'on croit vraiment que ça suffit à faire qu'une Église fonctionne, croisse, remplisse son appel, attire? Je vous propose qu'on regarde plus en détail ces quatre piliers de l'Église. Le premier, c'est la prière. La réunion de prière, c'est le baromètre de votre Église. Votre vie de prière, c'est le baromètre de votre foi. Si la prière n'est pas indispensable pour votre Église, alors je suis désolée de vous le dire, mais votre Église, elle n'est pas indispensable. C'est dur. Mais si notre Église a l'impression qu'elle peut accomplir la mission que Dieu lui a laissée sur terre sans la prière, alors elle n'a pas compris l'ampleur de la mission. Avec mon mari, on est parti au Pérou avec une dizaine de personnes pour aider une église dans une ville très pauvre au nord-est du pays. On faisait de l'animation parmi les enfants dans les villages pauvres. On faisait de la prévention santé, de la prévention violence conjugale. Mais en réalité, on n'a rien apporté du tout. C'est eux qui nous ont mis des claques. Leur église, elle s'appelait la Casa de Oración, maison de prière. Et c'est ce qu'elle était. Et chaque matin, de 6h à 8h, il y avait une réunion de prière. Et c'était bondé. Les gens, ils venaient avant d'aller au travail. Et ils priaient. Ils amenaient leurs besoins à Dieu. Ils priaient pour des miracles. Et l'église, elle était pauvre. Ils n'avaient aucun moyen. Ils ont pu ouvrir un centre de rééducation pour enfants handicapés. Ils ont pu ouvrir une école publique et une école pour les enfants du village. Il y avait des dons qui arrivaient après leur prière, des États-Unis, de l'Europe. Et dans notre petite église à l'Oasis, à Vénissieux, on souhaite aussi persévérer dans la prière. Mais soyons honnêtes, je ne sais pas si c'est pareil dans les églises, mais honnêtement, une réunion de prière, ça attire bien moins qu'un concert gospel ou qu'un culte en commun à la bourse du travail. Et pourtant, on persévère. Et on voit de plus en plus de personnes venir nous rejoindre. Du coup, on a démarré une réunion de prière le dimanche matin, avant le culte. Et ça change le culte. Surtout parce qu'en fait, ça nous change nous. Et je vais vous donner un témoignage personnel, mais quand on a fini la formation à l'école biblique avec mon mari, et qu'on a pris, surtout mon mari, la charge pastorale de l'église où on est maintenant, et bien c'était pas rare que dimanche matin, je vive les cultes en me focalisant sur tout ce qui pouvait éventuellement mal se passer, ou tout ce qui allait mal se passer. La porte de notre salle, elle grinçait. Du coup, dès qu'elle grinçait, mais ça m'énervait. Et donc, dès qu'il y avait un retardataire, je sentais que ça montait en moi, ou quelqu'un qui se levait pour aller aux toilettes. Et je voyais le visage de Norbert devant moi, j'ai changé les noms. Et il n'avait pas l'air très content du choix des chants, et ça me stressait. Et puis j'avais peur parce que le message était un petit peu plus long que d'habitude, et je me disais, est-ce que ça va lasser les gens? Et puis le groupe de louanges, ce dimanche-là, il n'a pas hyper bien joué, et je me dis, mais ce jeune couple qui vient d'arriver, ben, il ne va pas vouloir rester. Et les enfants qui font du bruit, est-ce que ça ne va pas déranger les personnes âgées? Et est-ce que j'ai salué tout le monde à la fin du culte? Et est-ce que Jamie ne va pas se sentir laissée pour compte? Et je vivais avec ce poids sur mes épaules. C'était horrible. Et c'est grâce à la prière que j'ai été délivrée de ça. La prière du dimanche matin. Parce que je vivais comme si ça dépendait de moi. Comme si ce que j'allais faire avec l'équipe pastorale, ça allait faire qu'on allait vivre un super culte. Mais gloire à Dieu, j'ai été délivrée de ça. Parce que prier avec mes frères et sœurs avant le culte le dimanche matin, ça m'a aidé à préparer mon cœur, à me focaliser sur Dieu, sur l'adoration qui lui est due, sur le fait que c'est lui qui tient son église, que Jésus est la tête de l'église, pas moi. Même si je ne venais pas, Dieu peut faire ce qu'il veut. La prière le dimanche matin, ça m'a aidé à changer mon cœur et vivre les cultes différemment. Et le fait de me plonger dans la parole de Dieu aussi, mais ça j'en parle juste après. La prière, c'est un privilège, les amis. Ça nous permet d'accéder à la présence de Dieu dans le lieu très saint. C'est notre part en tant que prêtre royal. C'est notre appel en tant que nation mise à part, en tant qu'Église. Et on ne doit pas s'en passer. Si on veut tenir bon dans l'Église, il ne faut pas qu'on s'en passe. Et si on veut que notre Église tienne bon, il ne faut pas que notre Église s'en passe. Si votre Église ne prie pas, commencez à prier. Ne soyez pas vindicatif et orgueilleux en allant voir le pasteur en disant « J'ai tout compris, faut qu'on se mette à prier !» Non, soyez humble, priez de votre côté. Ne méprisez pas les petits commencements. Le deuxième pilier de l'Église, selon le livre des Actes, il ne veut pas s'afficher. C'est l'enseignement des apôtres. On en a parlé tout à l'heure, parce que l'édification des croyants, c'est une des missions de l'Église. Et elle est basée sur l'enseignement des apôtres, sur la parole de Dieu. Et en tant que corps de Christ, on doit persévérer dans la lecture et l'étude de la parole de Dieu. On doit apprendre à nos membres à le vivre quotidiennement et personnellement. Et on est appelé à le vivre en assemblée et l'étudier ensemble en la mettant en pratique ensemble. L'étude de la parole de Dieu, ça va vous aider à tenir bon dans l'Église, à vouloir la même Église que Dieu, à être des encouragements pour l'Église, à être des personnes persévérantes. Et lorsqu'on ne chérit pas les Écritures, et lorsqu'on ne discerne pas ce qu'on entend à la lumière de la parole de Dieu, alors du coup, on devient ébranlé beaucoup plus facilement. On peut être ballotté à tout vent de doctrine. On peut laisser les mensonges de Satan venir des vérités si on ne les remplace pas par la vérité de la parole de Dieu. On peut devenir amer, revendicateur, égoïste, centré sur nous-mêmes. Et ça, ça ne nous aide pas à tenir bon dans l'Église. Hébreux 4, verset 12, dit « La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à double tranchant, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Jean 6, 63, dit ceci, « C'est l'esprit qui fait vivre. L'homme seul n'arrive à rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. » Et Ésaïe 55, « La pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et avoir fait germer ses plantes, sans avoir fourni de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Il en va de même pour ma parole, celle qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. Est-ce que ces versets, ils font naître en vous l'envie de vous plonger dans la parole de Dieu et de la serrer contre votre cœur? Les fruits de la parole de Dieu, ils sont évidents dans notre vie quand on la chérit. Ils sont évidents dans la vie de l'Église, quand elle est au centre de l'Église. Alors n'attendons pas d'être nourris uniquement le dimanche matin ou à l'étude biblique. Ne mangez pas juste une fois par semaine. Si vous placez votre espoir dans ces événements pour être nourri, eh bien vous allez forcément être déçu de l'Église. Vous allez avoir du mal à tenir bon dans l'Église. Parce que vous allez placer sur l'Église des attentes qui sont injustes. Mais nourrissez-vous chaque jour. Chérissez la parole. Ne gardez pas ce que vous avez reçu pour vous pendant la semaine. Partagez-le. Ça fait partie des disciplines qui vont vous aider à tenir bon dans l'Église et aussi être une source d'encouragement pour votre Église locale. Parce que vous pouvez participer à sa croissance. Le troisième pilier de l'Église, selon le livre des Actes, c'est la communion fraternelle. Et on en a parlé ce matin à travers ce que Catherine et Ruth Anne ont partagé. Mais peut-être que vous avez déjà entendu ce genre de conversation dans votre Église. Et Mireille, tu vas où à l'Église en ce moment ? En ce moment, je suis le culte en ligne de l'Église Nick à Paris. Et puis j'écoute les messages en ligne de MCTV. Franchement, ça me fait trop du bien. Je comprends des choses que j'avais jamais compris avant. Et sinon, quand je peux, je vais à l'église de la Rivière. Oh, cool ! Un dimanche où tu vas, je vais y aller avec toi ? Franchement, je suis un petit peu déçue de mon église actuelle. Mais oui, bien sûr. Alors, ce dimanche, j'y serai pas parce que mon fils a un match de foot. Mais normalement, le dimanche d'après, c'est bon. Cool ! Est-ce que la louange est dynamique dans ton église ? Parce que moi, j'en peux plus du groupe de louange. C'est hyper mouché. Alors, on pourrait faire une table ronde en parlant de tout ce qui ne va pas dans cette conversation. Et le but, ce ne serait pas de juger les personnes qui parlent comme ça, mais de pleurer sur l'état de l'Église. Et prier pour qu'on fasse partie du changement. Parce qu'une des choses qui transparaît dans cette conversation, c'est le fait qu'on limite l'Église à un culte facultatif d'une heure et demie le dimanche matin et qui peut être vécu de manière solitaire sans aucun problème. Mais dans la vision biblique de l'Église, l'Église, elle est censée fonctionner comme une famille. Et la communion fraternelle, elle est centrale. Alors vous me direz peut-être, mais Léa, t'es sûre que l'Église, elle est censée fonctionner comme une famille? Parce que franchement, c'est déjà assez difficile dans ma propre famille. Alors de faire pareil avec des gens que j'aurais même pas choisi en tant qu'amis, c'est un peu compliqué. Eh ben si, justement. Parce que c'est encore une occasion où on a besoin de la prière, du Saint-Esprit, et de ce lien surnaturel qui est l'amour. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est cet amour surnaturel qui va attirer le monde. On a une association culturelle à l'Église qui s'appelle Lula. C'est l'acronyme de « les uns les autres ». Et cette expression, elle est utilisée plus d'une centaine de fois dans la Bible. Prier les uns pour les autres, s'encourager les uns les autres, s'édifier les uns les autres, prendre soin les uns les autres, s'aimer les uns les autres. Et je ne sais pas quelle image vous vient à l'esprit quand vous pensez à ce genre d'amour. Est-ce que c'est l'amour qu'on peut retrouver entre collègues? Est-ce que c'est l'amour qu'on peut retrouver dans un groupe d'amis? Dans un club de sport, avec ses voisins. J'ai de la peine à vous le dire cet après-midi, mais avec mes collègues, on se témoigne plus d'amour que ce que je peux vivre parfois dans mon église. J'étais malade récemment, il m'appelle quand je me sens pas bien, il me presse pour que j'aille chez le médecin comme si c'était ma mamie, il me prépare des tisanes avec du miel quand je suis en présentiel. Ils sont les premiers à appeler mes enfants lors de leurs anniversaires. Il me demande comment se passe ma préparation pour aujourd'hui. Alors qu'il croit pas en Dieu, pas encore. Il me demande de prier pour leurs sujets importants. On pleure ensemble, on se relève lorsqu'il y en a un qui est stressé ou qui a beaucoup de boulot. Et parfois on se blesse. et on se demande pardon. Et j'ai conscience que ce que je vis dans mon boulot, c'est une grâce, et c'est pas ce que tout le monde vit sur son lieu de travail. Et le but, c'est pas de faire une comparaison entre ce que je vis et ce qu'on peut vivre en église, mais c'est de soulever ce qui a permis de créer ces relations. C'est le temps. Le temps passé ensemble, l'honnêteté, le partage. Je vois mes collègues tous les jours. Et leurs profils nous ont permis d'être authentiques et vulnérables ensemble. Et il y a assez de confiance pour qu'on puisse se partager sans se juger. Mais pour vivre la communion fraternelle dans l'Église, on doit y mettre le temps. On doit y mettre l'effort. Et ça ne va pas se créer en venant juste le dimanche matin. Mais vous savez quoi? Ces relations, aussi belles soient-elles, et parfois même plus belles que ce qu'on peut vivre dans l'Église, et bien c'est toujours pas l'amour chrétien. Parce que l'amour chrétien, c'est bien plus que ça. L'amour chrétien, il aime ses ennemis. On le lit, il est un peu long, mais on le lit, ça vaut le coup. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous détestent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta chemise. Donne à toute personne qui t'adresse une demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous aussi de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance en avez-vous? En effet, les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quelle estime en avez-vous? Les pécheurs aussi agissent eux-mêmes. Et si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quel gré vous en sait-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'équivalent. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans espérer en retour. Votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc plein de compassion, tout comme votre Père est plein de compassion. Amen. Jésus nous a aimés jusqu'à la mort. Il s'est sacrifié pour nous. Mais comment est-ce que nous, on peut aimer avec autant d'abnégation? En connaissant Dieu, personnellement, en goûtant à son amour pour nous quotidiennement, en nous laissant remplir par lui et équiper par son Esprit Saint, pour que son fruit abonde en nous. Il veut nous rendre capables d'aimer comme ça. C'est sa volonté. Si vous priez pour ça, vous êtes sûr que vous êtes en train de prier selon la volonté de Dieu et qu'il va répondre. Il va vous apprendre à aimer comme ça. Il va vous équiper pour aimer comme ça. 1 Jean 4, 7. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Et je vais l'afficher quand même si j'arrive. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Ceux qui n'aiment pas ne connaissent pas Dieu. C'est pas moi qui le dis, c'est Jean. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Toujours pas moi qui le dis, c'est Jean. En nous privant de la communion fraternelle, en faisant que c'est une option facultative, on passe à côté de quelque chose de merveilleux. La communion fraternelle, elle fait partie du plan de Dieu pour notre croissance spirituelle, pour notre sanctification, mais aussi pour notre témoignage. La communion fraternelle nous apprend à vivre l'unité et l'amour surnaturel. On a besoin de persévérer, de tenir bon dans la communion fraternelle. Et c'est justement quand c'est difficile qu'on a besoin de tenir bon encore plus. Quatrième et dernier pilier de l'Église selon le livre des Actes, la fraction du pain. Alors, c'est ce qu'on appelle plus communément la scène, ou la sainte scène, ou le moment du pain et du vin, selon les églises. Mais les premiers chrétiens, ils persévéraient dans la fraction du pain. C'est-à-dire que lorsqu'ils se réunissaient autour d'un repas, ils célébraient la scène. Le fait que Jésus l'ait institué, c'était vraiment frais dans leur esprit. Ils se rappelaient de ces mots. « Faites ceci en mémoire de moi. » Ils se rappelaient de ce que Jésus a fait, par amour pour eux, en allant jusqu'à la mort, par amour. La scène, elle a plein de significations. Elle symbolise la mort de Jésus pour nous, son corps brisé, son sang versé. Et lorsqu'on la prend, on proclame la mort de Jésus et notre participation aux bienfaits qui découlent de sa mort. La scène, c'est aussi une nourriture spirituelle. Elle symbolise que Jésus nourrit et rafraîchit spirituellement nos âmes. Et puis elle symbolise notre unité en tant que chrétiens, parce qu'on partage tous ce même pain unique. J'aime beaucoup cette phrase de Grudem qui résume la scène. Quand je participe à la scène, j'entre dans la présence de Jésus. Je me souviens qu'il est mort pour moi. Je participe aux bienfaits qui découlent de sa mort. Je reçois une nourriture spirituelle et je suis unie à tous les croyants qui participent à cette scène. Alors je ne sais pas ce que ça vous fait d'entendre ça, mais personnellement, moi, ça fait naître la louange, mais aussi la repentance. Pour toutes les fois où j'ai pris la scène sans mesurer ce privilège. Et je me rappelle, enfant, j'avais tellement hâte du jour où je pourrais enfin prendre la scène. J'avais l'impression qu'il fallait que je fasse partie de ce groupe. J'avais aussi très faim à 11h, dimanche matin. Et j'imagine que vous aussi, si vous avez des enfants, vous avez dû lui retenir de ne pas attraper un morceau de pain sur le plateau qui circulait. Mais en réalité, on a besoin d'être comme ça. Même si les enfants ne comprennent pas pourquoi ils font ça, ils ne comprennent pas l'ampleur de la scène, ils ont juste envie de manger un morceau de pain. Mais le désir qu'ils ont de prendre la scène, sérieusement, est-ce qu'on l'a encore? Est-ce que ça ne devrait pas nous rappeler quelque chose? Est-ce que c'est devenu optionnel? Est-ce que ça nous fait ni chaud ni froid, la scène le dimanche matin? On devrait tenir bon dans une église qui prend le repas du Seigneur et qui ne le prend pas à la légère. On doit tenir bon dans ce commandement du Seigneur en prenant le pain et le vin avec la louange et l'appréciation de ce privilège. Parce que ça a une portée et des bienfaits qui nous dépassent. Et se rappeler de l'ampleur de sa signification, ça nous aide à tenir bon dans l'Église. J'arrive à mon dernier point. Pour tenir bon dans l'Église, il faut qu'on comprenne quelque chose de fondamental. Et je pense qu'on l'a tous compris. L'Église, ça ne se limite pas au culte le dimanche matin. Et on n'a pas été créé pour être nourri continuellement au biberon ou à la petite cuillère, en étant assis sur un banc dimanche après dimanche. Pour tenir bon dans l'Église, il faut se saisir de ce que Dieu a prévu pour l'Église et marcher dans les traces de Jésus. Philippiens. S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a la tendresse, de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en même accord. Et il y a un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus. Lui qui est de condition divine n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Matthieu 20, 28. Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que les chefs des nations dominent sur elles et que les grands les tiennent sous leur pouvoir. » Ce ne sera pas le cas au milieu de vous. Mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu pour être servi. Non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Est-ce qu'on ne s'est pas habitué à vivre l'Église en mode consommateur plutôt qu'en mode serviteur? En mode consommateur, on est plutôt enclin à sortir du culte en parlant ou en critiquant le message, la température de la salle de culte, le niveau sonore de la batterie, le choix de mots du pasteur dans une certaine phrase, la qualité du café servi ou l'absence de café, le fait que Gertrude ne nous ait pas adressé la parole. Oui, Gertrude, j'aime bien. Je ne viens pas dans l'église, alors j'utilise souvent. Mais en mode serviteur, je regarde si je peux accueillir une nouvelle personne. Je regarde s'il y a quelqu'un qui ne se sent pas forcément à l'aise, si je peux aller la voir, qu'elle se sente plus à l'aise. Je propose du café. J'encourage Gertrude en lui demandant comment s'est passée sa semaine et comment je peux prier pour elle. J'encourage un des intervenants du culte en revenant sur un aspect qui m'a encouragée en ce qu'il a dit. Je visite une personne de l'église dans la semaine où je passe un coup de fil. Alors surtout, ne me méprenez pas. On ne fait pas ça par légalisme. On ne fait pas ça pour se faire voir. Et on ne fait pas ça pour qu'on nous fasse la même chose en retour. Sinon, on ne le fait pas. On le fait parce que pendant la semaine, on s'est nourri de la présence de Jésus et de sa parole. Et que notre cœur s'est préparé avec Dieu à la rencontre de notre Seigneur et de nos frères et sœurs. On le fait parce qu'on a compris qu'on est appelé à marcher dans les traces de Jésus et qu'on veut l'imiter. On le fait parce qu'on a compris l'importance de l'Église dans le plan de Dieu et son amour pour l'Église, et parce qu'on veut tenir bon. On veut faire partie de ce qui va encourager l'Église, édifier l'Église, et pas de ce qui va la fragiliser et de ce qui va la diviser. Je suis d'accord avec vous, l'Église, elle n'est pas parfaite. Mais Jésus veut la rendre parfaite. Et il y a cette promesse qu'on retrouve avec l'analogie de l'amour d'un mari pour sa femme. Marie aimait vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle afin de la conduire à la sainteté après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Dieu veut rendre son Église irréprochable. Il veut la conduire à la sainteté après l'avoir lavée et purifiée par l'eau de la parole. Il la nourrit et il en prend soin parce que nous sommes les membres de son propre corps. Je conclue. Je veux finir avec l'épisode de Jésus dans le temple. Vous le connaissez tous. Il est relaté dans quasiment tous les évangiles, peut-être tous. C'est dans Marc, chapitre 11. Vous allez en voir tout le PowerPoint. Les versets 15 à 17. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Et il renversa les tables des changeurs de monnaie et les sièges des vendeurs de pigeons. Il ne laissait personne transporter un objet à travers le temple et il les enseignait en disant « N'est-il pas écrit « Mon temple sera appelé une maison de prière pour toutes les nations » Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Dans cet épisode de la vie de Jésus, on peut retirer plusieurs choses. Les chefs des prêtres et les pharisiens, ils avaient laissé le temple se transformer en quelque chose qu'il n'était pas. Et ça choquait plus personne. Les vendeurs, les tables, la monnaie, les animaux, tout ça c'était dans le temple. Et les gens, ils s'en étaient accommodés. Ça faisait partie du temple. La question que je vous pose ce matin, et que j'aimerais qu'on puisse discuter aussi autour des tables, c'est est-ce que nous nous sommes éloignés de la vision de l'Église de Dieu en projetant sur elle ce que nous pensons qu'elle doit être et en s'attendant désormais à ça? Est-ce qu'on a laissé le monde entrer dans l'Église en devenant des consommateurs assis sur des bancs? Et ça nous choque même plus. Première question. La deuxième question, c'est est-ce qu'on vit l'Église pour les mauvaises raisons? Pour ce qu'on peut en tirer pour nous-mêmes? Plutôt que pour adorer Dieu, le servir, servir nos frères et sœurs, témoigner de notre foi, vivre la communion fraternelle. Troisième question. On est tout le temple du Saint-Esprit si on a accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur. Mais quelles tables ont besoin d'être renversées dans mon cœur, dans mes pensées, dans ma compréhension de l'Église? De quoi est-ce qu'on a besoin d'être purifié? De quels mensonges on doit être secouru? Quel mensonge doit être remplacé par la vérité? Et la quatrième chose que je vais vous laisser, c'est pas une question, mais c'est quelque chose que je vous invite à vivre autour de vos tables. C'est le fait de revenir à une maison de prière. Ce que Jésus dit sur le temple. Il faut qu'on prie, les amis. Il faut qu'on prie pour devenir des personnes qui prient. Il faut qu'on prie pour que nos églises prient. Il faut qu'on remplace nos inquiétudes et nos critiques par la prière. Alors je vous propose qu'on puisse mettre cela en pratique par petits groupes, peut-être de 3 ou 4 sur nos tables, autour des tables. Priez pour avoir une vision juste de l'Église, pour tenir bon dans cette vision juste, pour être des femmes persévérantes et encourageantes dans nos églises locales, tout simplement pour tenir bon dans l'Église.